L'église bousculée. Un risque ou une chance? Quelle porte pour entrer dans l'église bousculée? Monseigneur Nicolas Souchu.
Bonjour ou rebonjour à tous. Effectivement, c'est difficile de parler après d'éminents intervenants, mais je vais essayer surtout que, de fait, certains m'ont coupé l'herbe sous le pied. Et vous allez voir, on va toujours s'arranger. L'avantage, c'est que finalement, cette dernière étape va constituer aussi un peu comme une petite synthèse, au moins de moi, ce que j'ai entendu ce matin, et peut-être des choses que vous avez pu vivre hier. Alors, dans le diocèse d'Eredax, au mois de décembre dernier, il y a une salle paroissiale qui s'est, d'un seul coup, écroulée. Une église bouleversée n'est pas forcément une église écroulée. Et même dans cette salle paroissiale écroulée, heureusement, il y avait eu un groupe d'enfants, disons, à 2 heures, et la salle s'est écroulée à 5 heures. Et quand j'ai visité avec la sœur, ce qu'on pouvait encore visiter, elle m'a dit, bon, je venais de faire le ménage. En tout cas, dans cette salle écroulée, il y avait toujours la porte. Et ceci m'a donc donné idée de traiter avec vous ce qui est annoncé dans le programme, quelle porte, au pluriel ou au singulier, pour entrer dans l'église bousculée. Donc nous aurons un temps de topo, puis un temps en atelier avec les petites questions qui sont au dos de ce que nous avons eu ce matin de Mgr Passikos et de Marc, sur 2 questions que dira à la fin. Alors, j'avais trouvé 4 portes par lesquelles on pouvait entrer dans une église bousculée. Vous allez voir que sur ces 4 portes, il y en a plusieurs dont on a déjà parlé ce matin. Donc, peut-être que je serai moins long sur les portes dont on a déjà parlé, et du coup, un petit peu plus long sur les portes dont on a, semble-t-il, pas trop parlé, mais je resterai, rassurez-vous, dans les temps. Alors, je vous donne l'intitulé de mes 4 portes. La première, l'institution. Alors, vous voyez là, nous sommes tous bien branchés. La deuxième, le peuple. Là aussi, mais peut-être qu'on n'a pas tout dit. La troisième, on n'en a pas parlé, le bâtiment. L'église-bâtiment, l'église de pierre. Et la quatrième, on en a aussi un petit peu parlé ce matin, l'église visible et spirituelle. Voilà. Donc, ma première porte, l'institution. Alors, je ne vais pas revenir sur ce qui a été dit ce matin, notamment par Mgr Passikos, mais je voulais dire que la foi catholique reconnaît l'institution d'église comme un acte de Jésus-Christ. Et je trouve que quand on a une église bousculée, c'est important de revenir sur l'essentiel, la pierre angulaire, dit le texte de l'Évangile. De fait, Jésus n'a pas voulu que tout s'arrête avec sa mort. Sa mission est destinée à se poursuivre dans l'histoire, au point que nous sommes là, aujourd'hui, dans le diocèse d'Eredax, avec des personnes aussi du diocèse de Bayonne, Lescar et Oléron. Et Jésus a donné des éléments fondateurs. Son enseignement, alors l'Évangile, il n'a pas écrit, évidemment, mais nous avons l'Évangile, la prière du Notre Père, il a donné des gestes, le baptême, l'Eucharistie, le pardon des péchés. Il a voulu que ce qu'il a donné à ses disciples soit ensuite transmis. Saint Paul, je vous transmets ce que j'ai moi-même reçu. Il a voulu que son message soit annoncé, aller de toutes les nations faire des disciples. Il a voulu faire des disciples partout. Donc, au sens humain du terme, l'Église est aussi une institution, mais qui a Jésus comme fondateur. Autant l'institution peut être bousculée, que le fondateur, lui, ne peut pas être écroulé. Il a explicitement confié cette mission de continuation à un groupe de ses disciples. Et ces événements fondateurs sont donc venus jusqu'à nous par l'intermédiaire de ceux qui ont continué. Jésus est aussi le ressuscité qui apparaît à ses disciples, qui leur donne son esprit et qui envoie baptiser dans toutes les nations. Jésus, celui qui a dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps ». Donc Jésus est présent dans ses disciples par le don de son esprit, aujourd'hui comme hier. Tout à l'heure, je vais célébrer une confirmation auprès de jeunes. Et bien voilà, Jésus est présent dans son esprit, aujourd'hui comme hier. C'est lui qui fait les apôtres, c'est lui qui fait les saints, c'est lui qui fait les serviteurs de Dieu, c'est lui qui fait les prophètes pour notre temps. Jésus est donc le fondement perpétuel de l'Église. Il n'en est pas le fondement simplement initiateur, il en est le fondement perpétuel. Et évidemment, sans la foi au Christ ressuscité, l'Église ne peut se concevoir. En ce sens, elle n'est pas mondaine, pour reprendre une expression de ce matin. Donc l'Église est d'abord un acte de la volonté de Jésus. Un chrétien, un disciple de Jésus, n'existe et ne peut exister que parce que Jésus a institué son Église. Ainsi, il a été baptisé. Le baptême, c'est la porte d'entrée dans l'Église. On a annoncé à se baptiser l'Évangile. Peut-être qu'il lit l'Évangile chez lui, qu'il prie le Notre Père. Même si cela se vit seul dans son coin, en réalité, c'est déjà toute l'Église. Parfois, quand on prend le métro parisien, on voit des gens, ils ont prié en église ou je ne sais quelle autre revue. Bien sûr, ils la lisent tout seul dans leur coin, ils ne savent pas peut-être qu'il y a d'autres chrétiens dans le compartiment, mais c'est la parole de Dieu qui est donnée pour toute l'Église. On lui l'a transmis, et donc c'est aussi à lui de le faire. Alors évidemment, comme on l'a dit, dire que l'Église est une institution, c'est dire qu'elle fait partie de l'histoire humaine. Cette institution est ancienne, on ne rajoute pas. Et finalement, cela veut dire aussi qu'à travers cette institution, Dieu se compromet dans l'histoire des hommes. Comme chrétiens individuels, nous nous compromettons dans notre propre histoire. Comme Église aussi, nous compromettons Dieu dans notre histoire des hommes. Alors de manière positive ou bien de manière extrêmement négative. Mais voilà, de ce point de vue, voyez, on pourrait dire qu'un chrétien sans Église est vite un chrétien sans histoire. Pas au sens des petites histoires, mais au sens de l'histoire avec un grand H. Un chrétien sans Église serait vite un chrétien sans histoire et sans mémoire, comme dans une famille. L'histoire et la mémoire ne sont peut-être pas toujours agréables, mais elles comptent comme une identité. Quant à refuser que Dieu soit compromis dans l'histoire des hommes, ne serait-ce pas refuser tout bonnement le mystère chrétien? Au travers de l'histoire, les tentations d'élever une église pure, etc., contre une église supposée corrompue, trahissent les fondements du message évangélique. Le Seigneur n'est-il pas venu pour les pécheurs et non pour les justes? Alors pourquoi s'étonner que son église soit composée de pécheurs, comme on l'a dit ce matin, et non seulement de justes? Bien sûr, Dieu se compromet dans l'histoire, il y a des facteurs propres à chaque temps de l'Église, et ces facteurs viennent amplifier parfois notre difficulté à emprunter ou assumer la porte de l'institution de l'Église. Alors on l'a redit ce matin, je ne vais pas continuer, l'Église, comme toute institution, on s'en méfie dans le monde d'aujourd'hui. Bon. C'est un rapport difficile, et en même temps les institutions, quelles qu'elles soient, sont indispensables à la vie sociale de l'être humain, que ce soit l'école, l'État, l'armée ou d'autres, on pourrait prendre d'autres exemples. L'Église, elle aussi, elle est donc mise en cause dans cette critique des institutions. Celle-ci est nécessaire dans la mesure où la remise en cause ne cherche pas forcément la suppression. Ce que je vous ai dit, une Église bousculée n'est pas une Église effondré. Mais il faut toujours essayer de trouver un équilibre. Et d'ailleurs, vous savez, dans l'histoire, on a des balanciers. Alors, il y en a qui sont progressistes, il y en a qui sont conservateurs, etc. On aime bien tous ces éléments pour juger l'autre. Mais il ne faut pas perdre que l'institution Église catholique, si elle est marquée par les aléas de l'histoire, les défauts, les fautes de ses membres, et donc aujourd'hui nos défauts à nous, c'est surtout l'instrument formidable de transmission de l'Évangile, dans les sociétés, dans les questions du temps, sans se laisser emporter par l'opinion commune, ni la facilité. On retourne sans cesse vers l'institution pour lui demander de transmettre ce qu'elle a reçu comme mission de transmettre. Elle est vraiment faite pour transmettre. Et puis l'institution, ça a l'avantage aussi que ça marche. Je vais vous donner deux exemples. À un moment, le président de la République, Nicolas Sarkozy, avait demandé que l'on fasse des forums sur la laïcité dans tous les départements. Et donc, chaque préfet était invité à faire des réunions autour de la laïcité sur des thèmes. Et un jour, j'étais évêque auxiliaire à Rennes, je reçois un appel téléphonique du sous-préfet de Saint-Malo qui me dit « Ben voilà, je suis chargé d'organiser donc un forum sur la laïcité autour de laïcité et religion. » Alors, il me dit « Pour l'Église catholique, c'est bien vous ?» Ben, je dis « Oui, ça va. Bon. » Puis après, il me dit « Pour les protestants, je fais comment ?» Alors, je lui donne le nom des pasteurs, tout ça, etc. « Et pour les musulmans, je fais quoi ?» Ah, puis écoutez, là, les musulmans, ils sont assez divers. Puis c'est pas à moi de vous dire à qui est-ce qu'il faut contacter. Mais voilà, pour les musulmans, c'est vrai qu'un imam ne représente pas forcément sa communauté. Et puis s'il représentait sa communauté, il ne représenterait pas la communauté d'à côté. Ah, bon, c'est compliqué. Ben, je dis oui, chez nous, c'est plus simple. Bon, vous montrez l'institution. Ce matin même, je reçois une lettre de l'annonciature. Alors, quand c'est l'annonciature, on met la lettre en premier parce que c'est celle-là qu'on veut d'abord ouvrir. On se demande ce qui va se passer. Et en fait, ce sont des gens du diocèse d'Eredax qui ont écrit directement au pape pour une question qui les concerne. Et donc, l'annonciature, quand c'est comme ça, ça revient à l'évêque du lieu. Voilà. Alors, quand c'est comme ça, moi, je prends contact avec le curé de ces gens-là pour lui demander ben, « Est-ce que tu connais ces gens-là » tout ça, parce que manifestement, il y avait un petit problème. Enfin, c'est normal qu'il y ait des problèmes. Et donc, je dis au curé, ils n'ont pas compris que dans les Landes, le pape, c'est moi. Bon, pour vous dire, l'institution, ce n'est pas simplement quelque chose qui remonte en haut. Vous voyez, on a envie de faire monter en haut, mais l'institution, c'est d'abord la vie et la transmission. Voilà. Et je trouve que c'est très important d'ouvrir cette porte, même si cette porte, dans une église bousculée, est une porte parfois difficile à entendre et à comprendre. Deuxième porte, le peuple. On a beaucoup parlé ce matin du peuple de Dieu. Après l'aspect institutionnel, comment les gens peuvent-ils découvrir l'Église, en entendre parler, avoir un contact avec elle, si ce n'est par les chrétiens qui vivent au milieu d'eux, par tel groupe, telle personne du quartier, du village, du tel relais, telle équipe. L'Église, avant tout, ce sont des gens. Et l'Église se rencontre en rencontrant les gens. Donc, vous savez, le mot « Église »,« Ecclésia », ça veut dire « l'assemblée convoquée ». Donc, c'est le peuple qui est rassemblé par la parole de Dieu. À la messe, quand le prêtre préside la messe, ou l'évêque, il ne dit pas « Ah, ben, c'est sympa, vous êtes venu me voir, Nicolas Souchu est avec vous ». Non, le Seigneur soit avec vous. Voilà. C'est le Seigneur qui nous rassemble. C'est pas, on n'y va pas parce que le prêtre est gentil ou l'évêque ne sera pas trop long dans sa prédication. Donc, vous voyez, l'Ecclésia, l'assemblée convoquée. Il y a une convocation, un rassemblement par la parole. Et donc, l'Église, c'est le peuple de Dieu, ce peuple que Dieu constitue par sa parole. Et je vous inviterai à méditer largement les textes que nous aurons demain dimanche qui tournent justement autour de la parole de Dieu. La première lecture, Esdras, Néhémie, comment est-ce que le peuple s'est reconstitué après l'exil autour de la parole de Dieu. Il ne restait plus rien. Le temple était détruit, tout ça, l'institution était terminée, mais il restait la parole, et c'est autour de cette parole que le peuple a pu se reconstituer. Et puis c'est l'évangile, Jésus à Nazareth, dans la synagogue, aujourd'hui, cette parole s'accomplit. Voilà. Donc, c'est toujours vrai, ça. Voilà. Ce qui veut dire que le peuple, en soi, n'a pas l'initiative de son rassemblement. C'est Dieu qui appelle. Et le peuple lui répond en se rassemblant. Et le principe du rassemblement de ce peuple, c'est l'initiative divine. Il n'y a pas de raison morale, sociale, politique, historique de se rassembler. Ça, c'est très important pour ouvrir la porte du peuple de Dieu, de comprendre que nous sommes rassemblés, non pas parce que ça s'est toujours fait, mais c'est parce que c'est Dieu qui appelle, c'est Dieu qui nous parle. Et nous répondons à son appel. Le Concile Vatican II, dans la Constitution dogmatique sur l'Église, dit ceci, « Il a plu à Dieu que les hommes ne reçoivent pas la sanctification et le salut séparément, hors de tout lien mutuel. Il a voulu au contraire en faire un peuple qui le connaîtrait selon la vérité et le servirait dans la sainteté. Vous voyez, ça fait partie du plan de Dieu qu'on ne devient pas chrétien en soi. On ne devient pas chrétien tout seul. On devient chrétien ensemble. On n'accède pas à Dieu tout seul. Alors évidemment, Dieu peut convertir les cœurs radicalement. Hier, on avait la conversion de saint Paul. C'est sûr que, paf, mais qu'est-ce qu'il nous est raconté dans la conversion de saint Paul ? Va voir Anani, celui que tu voulais aller crucifier parce qu'il était le chef des chrétiens là-bas à Damas. Et puis, il va t'intégrer dans la communauté des chrétiens. Il va te baptiser. Voilà. Il a plu à Dieu, voilà, pour qu'il en soit ainsi, pour devenir membre d'un peuple. C'est ainsi que Dieu l'a voulu. Voilà. On a parlé ce matin aussi de communion, parce qu'évidemment, la communion, ça ne veut pas dire tous pareils, mais la communion, c'est quelque chose de très fort. Hein. Être en communion les uns avec les autres, être en communion avec le pape, en communion avec l'évêque local, ça ne veut pas dire qu'on trouve que l'évêque est sympa, ça n'a aucune importance. Mais c'est une communion beaucoup plus profonde que celle-là. Alors nous sommes un peuple, mais nous sommes aussi un peuple en marche. Alors, d'abord en marche, c'est une vocation un peu politique dans notre pays, mais en errance, disons. Voilà. Ce peuple est appelé, convoqué, rassemblé par Dieu. En même temps, il est en pèlerinage plutôt qu'en marche, disons. L'appel de Dieu le déplace. Le premier croyant dans la Bible, Abraham, va, quitte ton pays. Voilà. Et s'il n'avait pas fait, peut-être qu'il n'y aurait pas eu de peuple. Évidemment, il est ce peuple soutenu, éclairé, inspiré par l'Esprit Saint. Et cette réalité de l'Église en perpétuel pèlerinage, c'est une pensée commune qui vient depuis très longtemps. Jusqu'à chez nous, hein, pensons par exemple explicitement quand le pape Benoît XVI a donc renoncé à sa charge d'évêque de Rome. Ses dernières paroles, quand il est entré dans la résidence à Castel Gandolfo, parole publique de pape après avoir renoncé, voilà, je vais terminer mon pèlerinage sur la terre en priant pour l'Église. Voilà, pèlerinage sur la terre en priant pour l'Église. Ceci est à mettre, on en a parlé ce matin, l'épître à Diognète, cette petite épître des premiers temps de l'Église, qui dit ceci, les chrétiens résident chacun dans sa propre partie, dans sa propre patrie, pardon, mais comme des étrangers domiciliés. Intéressant ça, des étrangers domiciliés. Ils s'acquittent de tous leurs devoirs de citoyens, ils supportent toutes les charges comme des étrangers. Voilà. Ça rappelle saint Jean, qu'on a aussi cité ce matin, vous êtes du monde, mais vous n'êtes pas du monde. Voilà. Nous sommes domiciliés, comme qu'on soit quelque part, nous sommes du 21e siècle, dans le sud-ouest de la France. Voilà, c'est pas comme si on était au 15e siècle au Canada. Non, voilà, nous sommes au 21e siècle, sud-ouest de la France, avec tous les aléas qu'on peut avoir. Et en même temps, nous ne sommes pas du monde. De par notre baptême, nous avons une autre vision de la vie. Voilà, parce que Dieu nous appelle à autre chose. Il nous montre que notre vie n'a pas une fin en soi, en ce monde. Ce peuple qu'est l'Église n'a donc pas à s'étonner de se trouver en marge de la société, en contradiction avec celle-ci. Les exemples qu'on a donnés ce matin étaient signifiants de ce point de vue-là. Alors, ça peut être une dimension qui nous effraie, hein, qui nous étonne. Mais peut-être que les périodes où l'Église et le pouvoir étaient très liés ensemble, est-ce que ce sont des périodes qui ont permis à l'Église d'être libre ? On peut s'interroger. Aujourd'hui, c'est différent, mais on a quand même pu garder notre liberté, d'une certaine façon. Voilà. Donc, dans le monde qui est le nôtre, hein, sécularisé, affranchi de ses racines chrétiennes, eh bien, habite en même temps l'athéisme pratique, l'indifférence religieuse, et donc c'est normal que l'Église a l'impression de se trouver en terre étrangère, un peuple en terre étrangère. Voilà. Mais en même temps, c'est notre condition. Nous sommes du monde, l'Église est pleinement du monde, et des fois on est tellement pleinement du monde qu'on croit qu'elle est faite que pour ça, et en même temps nous ne sommes pas du monde. L'Église, elle est là pour nous le rappeler. Toujours dans le peuple, nous sommes un peuple local et divers, mais aussi universel et unique. Voilà. local et divers, unique et universel. Ce peuple de Dieu, bien qu'étranger de bien des manières, c'est aussi l'Église que l'on rencontre. Le petit groupe d'aumônerie, le petit groupe d'étudiants de la TPA, la communauté paroissiale, la communauté religieuse, le groupe de prière, l'équipe qui prépare le baptême de votre enfant, le groupe de catéchisme, que sais-je encore. Mais ce peuple, il existe comme un peuple universel, répandu par toute la terre. Un seul peuple réuni par la même parole de Dieu, avec les signes communs et visibles de son unité, la foi professée, les sacrements, voilà, le service de ce peuple. Donc voyez, l'unité et l'universalité de ce peuple, ce ne sont pas simplement des choses théoriques ou invisibles, c'est un des points qui distingue les catholiques, de fait, de nos autres frères des églises chrétiennes. Il n'y a pas de JMJ pour les protestants, par exemple, c'est-à-dire qu'on ne rassemble pas plein de jeunes dans un lieu, comme c'est actuellement le cas au JMJ à Panama, avec le successeur de Pierre, qui a un pasteur de l'Église universelle. Cette unité, cette universalité se manifeste dans des signes visibles, dans une communion visible et concrète. Communion de foi, communion des sacrements, communion des frères, garantie par les ministres de cette communion, successeurs des apôtres que sont les évêques. Vous savez que le terme catholique, on le traduit souvent par universel. C'est vrai, mais ce n'est pas totalement l'expression katholon en grec, qui veut dire « selon le tout ». L'Église catholique, c'est l'Église qui me donne la foi selon le tout, dans sa totalité. Voilà. Elle contient toute la révélation, elle est destinée à toute l'humanité. En sens, elle est universelle. Voilà. Confesser que l'Église est catholique, c'est confesser qu'elle porte le message de l'Évangile adressé à toute l'humanité. Donc l'Église comme peuple, c'est à la fois une réalité bien concrète, locale, proche, tangible, visible, avec une adresse, un mail, un numéro de téléphone, peut-être inscrite sur les réseaux sociaux, des gens qu'on peut voir, rencontrer, et en même temps, une réalité une et unique, universelle, rassemblant des hommes, des femmes de tous les pays, de toutes les cultures, de tous les milieux. Dans un diocèse, les prisonniers, ils font tout autant partie de la vie du diocèse que les personnes qui sont en EHPAD. Et les gens qui sont en EHPAD, ils font tout autant partie du diocèse que les gens qui errent dans la rue. Et les gens qui errent dans la rue, ils font tout autant partie du diocèse que les principaux collaborateurs de l'évêque. Voilà. Nous sommes cette Église qui est là. Donc nous sommes un peuple local divers, unique, universel, et nous vivons cette Église. Et c'est peut-être là, justement, la porte d'entrée principale de cette deuxième porte sur le peuple. Nous vivons cette Église. D'abord, nous sommes l'Église. Souvent des revendications, hein. Les baptisés, qu'ils le veuillent ou non, ils sont l'Église, ici et maintenant. Il y en a qui en ont vraiment conscience, et d'autres, on le sait, qui n'ont pas cette conscience. À partir du moment où on se reconnaît comme chrétien, et bien qu'on soit un chrétien actif ou pas, membre d'une communauté chaleureuse ou épisodique, voilà, et bien c'est ainsi qu'est constituée la figure de l'Église, ici et maintenant. Vous êtes en froid avec votre famille, elle reste votre famille. Vous pouvez être critique envers votre famille, mais vous en demeurez un membre. Voilà, nous sommes l'Église. Ce qui fait que nous sommes l'Église pour ceux qui nous entourent. L'Église concrète des disciples du Christ, que peuvent rencontrer nos voisins, nos amis, nos familles, etc. Vous savez qu'on développe, en tout cas dans le diocèse d'Eredax, les équipes d'animation pastorale paroissiale. C'est donc une responsabilité autour du curé de la paroisse et dans les relais. Puisque, on l'a dit tout à l'heure, le nombre de ministres ordonnés diminuant considérablement, ce n'est pas parce qu'il n'y a pas de ministres ordonnés sur place qu'il n'y a pas de chrétiens et qu'il n'y a pas de chrétiens authentifiés qui sont l'Église. Et souvent, vous êtes reconnus comme tels par des gens. Ils veulent faire un baptême, ils ne savent pas où est-ce qu'il faut sonner, ils vont voir la voisine parce qu'ils savent que la voisine elle va à la messe. Ou ils savent que la voisine elle est en lien avec l'Église. Et puis, elle va donner les renseignements. Elle ne va pas dire, on va aller voir monsieur le curé, j'espère. Elle va d'abord donner elle-même les renseignements parce qu'elle est capable de le faire. Nous sommes l'Église concrète pour nos voisins, nos amis, voilà. Les baptisés, qu'ils le veuillent ou non, sont les représentants de l'Église dans leur entourage. Ça, ce n'est pas toujours facile à assumer. Quand tous les matins, vous entendez une crise de pédophilie, et il faut assumer aussi ça. Voilà, nous sommes les représentants de l'Église, alors on est forcément accusés. On fait comme on peut. Nous sommes peut-être des représentants timides d'une Église qui ose à peine dire qu'elle existe des fois. Mais on est quand même des représentants. Voilà. Le monde au milieu duquel l'Église des disciples du Christ vit comme une étrangère peut connaître l'Église de l'extérieur, hein, par ses aspects institutionnels, mais aussi de façon plus concrète par le témoignage rendu. C'est saint Paul VI qui disait que le monde a plus besoin de témoins que de maîtres. Donc nous sommes l'Église pour ceux qui nous entourent, mais nous ne sommes pas toute l'Église. Et c'est là peut-être que nos contemporains, des fois, n'ont pas se trompent et se laissent tromper. Hein. Heureusement que nous ne sommes pas toute l'Église. L'Église existe par tous les baptisés, par des gens très différents de nous, dans des cultures, parmi des peuples très divers. Ce que nous connaissons de l'Église, notre expérience, n'en est qu'une petite, toute petite part. En fait, l'Église existe spécialement par des gens différents de nous. Ce n'est pas une communion qui ne rassemblerait que des gens semblables. Et ça, c'est peut-être une porte intéressante dans cette porte du peuple de Dieu, de rappeler que l'Église, ce n'est pas seulement ce qu'on en voit, ce qu'on en entend et ce qu'on en sait. C'est beaucoup plus large. Troisième porte, alors une porte qui n'a peut-être pas été explorée ce matin, la porte du bâtiment. Nous sommes un peuple, mais nous sommes un peuple qui se rassemble auprès du Seigneur, autour du Seigneur ressuscité. Comment une personne peut-elle avoir contact avec l'Église? Nous avons vu l'institution, nous avons parlé des chrétiens concrets qu'elle peut croiser, mais aussi des murs, des portes matérielles que franchissent bien des chrétiens pour des raisons très diverses. Et ces lieux viennent du rassemblement des chrétiens. Moi, je plaide pour que nos églises dans le diocèse soient ouvertes autant que c'est possible, parce qu'on ne peut pas savoir les gens qui peuvent rentrer dans une église quand elle est ouverte. On sait quand elle est fermée, mais on ne peut pas savoir. Voilà. Il n'y a pas très longtemps, j'ai fait le tour complet d'une paroisse, une petite dizaine de communes. Un dimanche après-midi, il y avait une église ouverte. Les disciples de Jésus ne se sont pas rassemblés dans les tentes ou dans les temples ou dans les synagogues. Car les temples en soi, ce n'était pas des lieux de rassemblement, c'était des lieux où on passait, voilà, on venait. Ils se sont rassemblés dans les familles, dans les pièces d'habitation, dans des salles communes. Les premières célébrations eucharistiques dont on est le récit, ben ça ne se passe pas dans les synagogues, dans les temples, ça se passe à la maison. Et donc c'est petit à petit que la messe a rassemblé les chrétiens pour qu'ils se retrouvent. Et donc ces salles, ces lieux de rassemblement, y compris dans les familles, eh bien, vont évoluer évidemment de façon complexe et passionnante, et vont prendre le nom de ce qui s'y passe. Si les chrétiens, dans une assemblée convoquée, une ecclésia en grec, vont se retrouver, eh bien les lieux où ces chrétiens se rassemblent, on va les appeler église. C'est-à-dire, on va les appeler du nom qui fait qu'ils se rassemblent. Vous voyez ? Et donc l'église, elle n'est pas construite d'abord pour que ça fasse beau, elle est construite parce qu'il y a des chrétiens qui se rassemblent. Ce qui veut dire que même vide, et c'est pour ça que je plaide pour l'ouverture des églises, même vide, une église demeure le témoin des chrétiens qui s'y rassemblent. Sauf évidemment si la photo du pape, c'est encore saint Jean-Paul II. Sauf si éventuellement il y a la photo de l'évêque et que c'est l'antéprédécesseur. Voilà, ça ne montre pas une église de gens qui se rassemblent. Mais quand même, même vide, une église demeure un témoin de l'église comme peuple et de la mémoire de multiples rassemblements dédié à la louange de Dieu, à sa supplication. Un témoin qui est peut-être parfois embarrassant, parce qu'il faut entretenir les églises, eh bien, il faut les ouvrir, sans qu'il y ait des gens qui rentrent, mais c'est quand même un témoin. Alors nous sommes l'Église, mais nous sommes l'Église qui célèbre. C'est ça le bâtiment. Et peut-être aussi que cette porte de la célébration, c'est quelque chose qui peut aider nos contemporains à entrer dans une Église bousculée et non pas effondrée. Un jour, j'ai consacré un nouvel autel dans une petite église, moi très bien, et puis il y avait des gens qui étaient pas du tout dans le coup, et une dame m'a dit à la fin, « Oh ben, j'y connais rien dans vos trucs, mais c'était quand même pas mal. » Voilà, parce que le signe voulait dire quelque chose. Donc le peuple de Dieu est convoqué par ce Seigneur pour lui rendre un culte. Ce culte est bien sûr réalisé une fois pour toutes par Jésus-Christ, médiateur de l'Alliance Nouvelle. Mais comme Jésus, voilà, nous sommes ce peuple qui rend à Dieu un culte. Voilà. Et donc toute la liturgie chrétienne, eh bien, consiste à célébrer, comme on a dit ce matin, non pas la gloire de l'homme, mais la gloire de Dieu, voilà, dans l'Esprit Saint. Et la liturgie a une place essentielle dans le fait d'être l'Église. S'il n'y avait pas de liturgie, littéralement, c'est-à-dire un travail commun, la liturgie, eh bien, il n'y aurait pas d'Église, il n'y aurait pas lieu qu'il y ait une Église. Et donc, chaque chrétien est invité à rendre ce culte à Dieu et à voir comment il peut, avec d'autres, rappeler qu'il n'est pas lui-même la source de ce culte, mais qu'il le reçoit. Et même quand je prie tout seul, du coup, ma prière, elle est ecclésiale, parce que je suis relié à tous ceux qui prient. Et toujours dans ce bâtiment, l'Église comme lieu. Ainsi, l'Église bâtiment, même vide, c'est un lieu parcouru, traversé, un lieu de passage, un lieu témoin, un lieu de prière personnelle. Des chrétiens sans Église n'en viennent pas forcément moins fréquemment prier dans l'Église. C'est un lieu de permanence, du baptême du petit, du mariage, des obsèques d'un proche. Ces moments importants sont accueillis par le bâtiment. Ils demeurent un signe de ce qui a été célébré pour nous. Et ça, c'est vraiment un signe très fort. Je me souviens, une fois, on avait une difficulté avec une maman qui voulait se faire baptiser, je crois, ou confirmer, enfin, peu importe. Et donc, c'était prévu dans une église, à tel jour, telle heure. Et elle refusait. Alors, on a dit, écoutez, pourquoi ? Est-ce que c'est parce que vous ne pourrez pas venir ? Est-ce que c'est parce que je ne sais pourquoi dans la famille ? Non, elle refusait parce que cette église, c'est dans cette église qu'avaient lieu les obsèques de son père. Et pour elle, les obsèques de son père, c'est évidemment un événement douloureux. Et elle ne voulait pas célébrer un autre événement heureux dans cette église qui avait été pour elle un événement douloureux. Donc vous voyez, il y a une mémoire des gens dans le bâtiment. Voilà. Et il demeure un signe de ce qui a été célébré pour nous. L'église, c'est un lieu de mémoire de culture chrétienne. Et Dieu sait si aujourd'hui la culture peut être aussi un chemin de foi. La foi s'est toujours exprimée dans l'art, l'architecture, et ça continue encore aujourd'hui, la musique. Et donc, de ce point de vue, comme je l'ai dit tout à l'heure, un chrétien sans église, ce serait donc un chrétien sans lieu, sans mémoire, sans art, sans permanence, et surtout, évidemment, sans culte rendu à Dieu, sans adoration de Dieu. J'arrive à ma quatrième porte, l'église visible et spirituelle. Alors, on en a parlé un petit peu ce matin avec l'œuvre de Maritain, Marc. Pour beaucoup de chrétiens, peu ou pas pratiquants, l'Église, c'est d'abord l'Église des saints, l'Église de leur mort, l'Église de la Sainte Vierge. Frappant des fois, quand vous restez un petit peu de temps dans les églises, vous regardez comment ils font les gens. Alors, il y en a, ils saluent le Saint-Sacrement, tout très bien. Mais il y en a, ils vont directement à la statue de la Sainte Vierge ou de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, sans saluer le Saint-Sacrement. Bon, voilà. Ça veut dire que, même de façon incomplète, les personnes touchent un point essentiel de l'Église. Je crois à la communion des saints. La communion des saints, elle est pour aujourd'hui, mais elle est aussi pour l'éternité. L'Église est une réalité visible, signe d'un mystère invisible. On l'a dit aussi ce matin. L'Église comme institution, comme peuple de croyants, comme bâtiment, est pour aujourd'hui témoignage de la communion des saints, de la réalité de la vie éternelle, témoignage visible de réalité invisible, témoignage de la dimension spirituelle de l'existence. Vous savez, quand des chrétiens qui ne sont pas du tout pratiquants demandent à ce que soient célébrés des obsèques, on demande pourquoi ? Pour qu'ils ne soient pas enterrés comme un chien. Alors évidemment, au point de vue de la foi chrétienne, c'est un petit peu juste, mais ça veut dire quelque chose. Bon, donc il faut essayer de creuser. Témoignage de la dimension spirituelle de l'existence, l'Église est un peuple toujours en pèlerinage qui aspire à la patrie céleste, à la demeure éternelle de Dieu, dont peut-être à la fois nos églises bâtiments, comme vous marquez la gloire de Dieu ou bien l'enfouissement de Dieu dans un quartier, voilà, sont aussi chemin vers la demeure éternelle de Dieu. L'Église comme signe tangible, réalité visible, témoigne du mystère intangible de l'amour de Dieu et de la communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je me souviens, pendant la guerre à Sarajevo, donc ça fait déjà 25 ans, Ils avaient montré à la télévision une église orthodoxe qui venait d'être détruite. Et donc il y avait encore la fumée du feu. Voilà. Et comme c'était dimanche, eh ben, ils montraient le pape qui était en train d'encenser les ruines de son église, comme si de rien n'était, puisque de toute façon, l'église visible est témoin de l'église de réalité invisible. Donc, l'église est détruite, c'est pas grave, la foi n'est pas détruite. L'église bouleversée n'est pas une église écroulée. Voilà. Et donc, nous participons dès aujourd'hui à cette communion avec le Seigneur par la foi, le culte rendu à Dieu, par l'amour du prochain. Et tout cela est vraiment préparation du moment où nous participerons pleinement à la vie de l'Église dans l'éternité. Ce peuple visible que nous sommes est en communion avec le peuple invisible. L'Église est une de par la volonté de Dieu. Il existe ainsi une réelle unité et communion entre les membres du peuple de Dieu. Une réelle communion par la foi commune, professée par l'ensemble des disciples, mais aussi une réelle communion entre les saints, les anges, les hommes, les femmes de notre temps. Voilà, tout ça, c'est la même Église. Il y avait une émission cette semaine qui était très intéressante. C'était on pouvait aider des enfants qui sont devenus orphelins de père ou de mère assez tôt. Je ne sais pas si vous avez vu cette émission. Alors non, ce n'était pas du tout sur le plan chrétien. Mais ils ont interrogé, ils permettaient comme ça à des enfants par la parole d'assumer ce manque. Et plusieurs ont dit, de toute façon, ma maman, elle est toujours dans mon cœur. Ou bien, mon papa, il est toujours avec moi. Que l'enfant ait 7 ans ou qu'il ait 19 ans. Ça m'avait beaucoup frappé, ça. Ben, c'est peut-être un petit signe aussi de ce qu'est la communion des saints, c'est pas simplement psychologique, vous voyez. C'est que la communion est toujours l'expression de l'amour de Dieu pour ses créatures, révélé en Jésus-Christ, communié par l'Esprit Saint. Ce n'est jamais une réalité coupée du mystère du Christ, cette communion. Elle se traduit par la prière des fidèles, demandant l'intercession des saints. D'ailleurs, vous savez, dans les grandes étapes de la vie, que ce soit un baptême, je l'ai vu aussi pour un mariage, les ordinations évidemment, qu'est-ce qu'on fait? L'Italie des saints. On implore l'Église du ciel pour l'Église de la terre. Et en premier lieu parmi ces saints, la Vierge Marie, modèle de sainteté, prémisse de cette communion parfaite entre le peuple sauvé et son Dieu. Cette communion, elle est semblable à celle d'un corps. Et demain, deuxième lecture, c'est justement l'image du corps dans saint Paul. Image qui n'est pas d'abord une image institutionnelle, mais une image mystique, le corps mystique du Christ. C'est ce que l'on veut dire en désignant l'Église comme telle, l'Église, corps mystique du Christ. L'ensemble des membres de ce corps est établi par une communion qui ne vient pas de leur bonne volonté, ni de leurs œuvres, mais qui est un don de la grâce, qui vient de la tête de ce corps, la personne de Jésus vivant. Et nous sommes tous mystérieusement unis par une grâce dont nous ignorons les frontières dans un même corps. Moi, je suis frappé que dans ce monde qui, comme on l'a dit, ne porte pas maintenant les valeurs chrétiennes, avec tous les scandales qu'on entend, moi j'ai rencontré le responsable du catéchuménat cette semaine, il m'a présenté les dossiers de personnes qui se présentent au baptême, personnes adultes qui se présentent au baptême. Il y en a tous les ans à peu près le même chiffre. Et puis on a déjà parlé du nombre de personnes adultes qui demandent à être confirmées, et il y en a de plus en plus. Voilà. C'est peut-être la prière des uns comme la prière des autres. Un jour, on m'avait raconté un homme qui était à Paris, artiste, donc il vivait dans son monde d'artiste. Et puis, un jour, paraît-il, il se promenait sur les quais de la Seine, et tout d'un coup, un peu comme saint Paul, il a senti la grâce de Dieu, j'allais dire lui tomber dessus. Bon, moi, je n'ai pas cette expérience, mais on soit que ça puisse arriver. Et il a senti dans son cœur qu'il était pu être appelé à être prêtre. Voilà. Ce qu'il est devenu. Et lui, il dit, c'est peut-être parce que quelqu'un, à travers le monde, a prié pour les vocations que le Seigneur m'a appelé sur les quais de Seine alors que je ne m'y attendais pas du tout. Voyez, l'Église invisible eh bien, elle peut être aussi le lieu de la présence visible. Un jour, moi, ça m'est beaucoup frappé quand j'étais jeune prêtre. Bon, j'ai fait comme beaucoup de jeunes prêtres, accompagné des jeunes, tout ça. J'ai fait des baptêmes, des premières communions, on n'en plus qu'en faire. C'était encore une époque où on en faisait beaucoup. Et un jour, à une session, alors j'étais déjà évêque, à une session, il y a un prêtre du diocèse de Bordeaux, d'ailleurs, qui me dit, vous êtes bien Nicolas Souchu? Ben, dit oui. Il me dit, c'est vous qui m'avez préparé à ma première communion. Bon, bien, pourquoi pas. Et puis il me dit, vous savez, c'est ce jour-là que j'ai senti l'appel à être prêtre. J'y étais absolument pour rien. J'aurais pu ne jamais le savoir. Il me l'a dit. Bon, voilà. Ben, l'Église visible, l'Église invisible, fait son travail à travers aussi l'Église visible, figurez-vous. Et avec des pauvres types comme vous. Donc je termine avec notre communion au mystère invisible. Hein. Voilà. Conscient ou non, qu'on le célèbre ou qu'on l'ignore, tout être humain appartiendra à l'Église des saints et des justes, au rassemblement éternel des sauvés. Saint Paul qui dit bien que tous les hommes sont appelés à être sauvés. En ce sens-là, alors, l'expression de Saint Cyprien qu'on a retenue ce matin, dont on a bien expliqué « hors de l'Église, point de salut », ne parlait pas pour les autres, mais parle d'abord pour nous. Notre appartenance personnelle aujourd'hui à l'Église visible, à l'Église catholique romaine, est un témoignage concret, extérieur et visible, de ce projet d'amour de Dieu pour tous, projet qui, évidemment, est toujours voilé, intérieur et peut-être parfois invisible. Et le chrétien appartient déjà à l'Église invisible, de par son baptême, par le don de l'Esprit Saint. Hein, comme on dit, l'Esprit Saint, on ne le voit pas, on a des signes. Bon. Nous avons déjà reçu les arts du salut. Nous vivons dans cette communion active avec Dieu, avec les saints et tout le peuple de Dieu, d'où l'importance aussi de la prière, parce que si on n'est pas en relation intime avec celui qui est plus intime à nous-mêmes que nous-mêmes, comme dit saint Augustin, ben, on n'est pas grand-chose. Voilà. Et donc, il y a des éléments dans notre vie chrétienne qui le manifestent, justement la prière, le discernement spirituel, l'approche chrétienne de la mort, évidemment, hein, puisque que ce moment de la mort arrive tôt ou tard, ce sera pour nous l'œuvre de Dieu. Et je vais terminer par là, par une très belle expression d'un prêtre à qui on demandait quel était le plus beau jour de votre vie. On lui a demandé vers la fin de sa vie. Et il a dit, ce sera le dernier, parce que je verrai Dieu face à face. Et ce prêtre a beaucoup travaillé à la réforme liturgique du Concile Vatican II. Il est mort un dimanche matin, après avoir célébré l'office des Laudes. Il y avait encore son livre ouvert quand il est mort. Voilà. Dieu sait aussi parler de signes visibles dans l'Église invisible. Donc voyez comment ces quatre portes peuvent peut-être nous aider à faire entrer dans une Église bousculée, qui une fois de plus n'est pas une Église écrasée.